à tous et à toutes, il est midi 15, vous écoutez Radio BLV et bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire. Vous êtes avec Camille et Mélodie à la technique, accompagnée de Fatih qui m'aide à la technique. Merci Fatih. Bonjour Camille, comment ça va?
Bah ça va super, merci.
Et nous sommes en présence de Christelle ainsi que de Chloé qui est au téléphone.
Alors on aura Chloé Dabert qui est metteuse en scène pour la pièce de théâtre Le Firmament à la Comédie de Valence et Christelle Bonnet-Chrétien, directrice de la ressourcerie de Tremplin basée à Tournon-sur-Rhône en Ardèche. Et comme d'habitude, des infos et des idées sorties. Alors aujourd'hui, on reçoit notre première invitée qui s'appelle Chloé Dabert, donc metteuse en scène de la pièce de théâtre Le Firmament, qui sera sur la scène de la Comédie de Valence le 1er et 2 mars prochain. Alors l'histoire du Firmament, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre qui se déroule en 1759 à l'est de l'Angleterre. Et c'est un groupe de femmes qui vaquent à leurs tâches ménagères et qui est en gros recrutée pour constituer un jury de mères de famille. Elles sont enfermées dans une pièce d'un palais de justice local sous le regard d'un huissier contraint au silence et ensemble, elles doivent déterminer si une jeune femme condamnée à être pendue pour meurtre est enceinte ou non. Parce que selon les lois de l'époque, seule la confirmation de sa grossesse pourrait la faire échapper à la peine de mort. Donc pendant 3 heures se tient le procès de cette accusée et c'est une nuit de discussion houleuse dans laquelle les préoccupations domestiques s'entremêlent de réflexions sur le pouvoir et la politique. Alors Chloé, j'ai lu le résumé de la pièce de théâtre et la définition du mot firmament, puisque c'est le titre de la pièce de théâtre. Et ça veut dire voûte céleste, strate dans le ciel. Et je voulais savoir pourquoi cette pièce de théâtre, elle s'appelait ainsi.
Alors, pour plein de choses, d'abord dans le contexte historique, c'est la première fois qu'on attend le passage de la comète de Halley.
D'accord.
Qui a été nommé par Monsieur Halley. Donc tout le monde a les yeux vraiment rivés vers le ciel, à attendre quelque chose qui va se passer au-dessus. Donc évidemment, bah, quand on regarde en l'air, on ne regarde pas forcément ce qui se passe en bas. Ça détourne un peu l'attention. Il y a aussi, c'est aussi une époque où on est entre la, enfin, où la religion a beaucoup de poids et on est entre religion, superstition, croyance, sorcellerie. Donc voilà, il y a quand même toute une dimension un peu voilà, céleste, quelque chose qui viendrait du dessus, du pouvoir divin du ciel. Voilà, je pense, le firmament, c'est ça. Et puis la pièce, au début de la pièce, il y a une petite citation de Shakespeare qui dit, qui est de Jules César, qui dit « Quand une comète passe, on ne voit comment dire, les mendiants, quand un mendiant meurt, on ne voit pas de comète. » Voilà, c'est ça.
Donc, d'accord.
Du coup, il y a voilà, toute une... il y a quelque chose d'un petit peu étrange comme ça dans la pièce qui flirte avec le surnaturel, aussi parce qu'il y a plein de... L'autrice, hein, la pièce, elle a été écrite en 2019, donc elle joue quand même avec les époques. Ça se passe vraiment en 1759, mais il y a plein de petites choses anachroniques, il y a plein de choses un peu étranges que nous, on qualifierait de surnaturelles, mais qui, à l'époque, en fait, c'est, voilà, c'est plus de la croyance ou de la superstition, je dirais.
Alors justement, en parlant d'anachronisme, donc l'autrice qui s'appelle... Lucie Kirkwood. Donc en fait, elle mêle à la fois le retour vers le passé et aussi un regard assez contemporain. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, des thèmes qui sont abordés et qui sont au final transversaux dans les époques ?
Oui, je pense qu'on est au début des grands empires coloniaux, la France, l'Angleterre. Il y a une guerre qui menace comme ça en Europe. Donc En fait, on est au début de plein de choses qui se terminent, enfin voilà, dont on a un peu la résolution aujourd'hui, hein, sur tout ce qui est en rapport aux colonies, l'Europe, puisque c'est une pièce qui est écrite après le Brexit, c'est une autrice anglaise. On a aussi tout ce qui a trait à la gynécologie, parce que c'est à ce moment-là le début de la médecine qui va prendre un peu le pouvoir sur le corps des femmes, alors qu'avant ça se passait vraiment, les sages-femmes, c'était vraiment un savoir de femmes comme ça entre elles, qui d'un coup, elles sont un peu dépossédées de ces choses-là. Ça va commencer à être hyper médicalisé, donc voilà, aujourd'hui où on peut se poser des questions, en tout cas où il y a plein de questions sur voilà, sur la gynécologie, l'accouchement, le corps, quoi, le corps de la femme. Il y a aussi une question qui se pose dans le jury sur est-ce que la fille, elle a commis ce crime avec son amant, alors est-ce que l'amant a eu de l'emprise sur elle, lui a un peu la poussée à faire ça, ou est-ce que c'est elle qui a voulu le faire, enfin, voilà, sur la question de l'emprise, qui est quand même une question très actuelle. La question du déterminisme social aussi, est-ce qu'on devient ce qu'on devient, pourquoi, par rapport au contexte dans lequel on vit. Il y a une question, je dirais, pour raccourcir, de lutte des classes, puisqu'on est aussi la justice et le pouvoir, ce sont les riches, et que là, les gens qui sont dans la pièce sont des gens du peuple. Donc il y a énormément de sujets qui sont traversés, qui en fait n'ont pas d'époque vraiment. Et puis la question des femmes entre elles, voilà, la question de savoir si les hommes se comportent comme ils se comportent par choix ou parce qu'ils sont dans la société dans laquelle ils sont. Voilà, il y a plein de choses, c'est très dense.
Et alors justement, ce côté contemporain, cette modernité, elle se retrouve quand même dans le décor qui est plutôt minimaliste. Et ça ressemble un petit peu au monde du cinéma. Et donc, il y a à la fois ce décor assez contemporain et des costumes qui sont d'époque. Et ça ressemble... Enfin, moi, j'ai vu quelques photos sur Internet et ça ressemble à une peinture flamande. Et du coup, pourquoi faire cohabiter à la fois un décor minimaliste avec un fond noir et très peu de décors, très peu de meubles, et à la fois des costumes... du 18e, et du coup c'est une cohabitation assez étonnante.
Oui, en fait on avait quand même envie que les spectateurs puissent vraiment se plonger dans l'histoire. Lucie Kerkout, c'est une autrice de théâtre, mais c'est aussi une scénariste, et voilà, elle fait des séries, elle fait des films, donc c'est sûr que c'est très cinématographique, la pièce, c'est très scénarisé. On est vraiment dans une histoire. Donc les costumes, les accessoires, ça permet vraiment de rentrer dedans. Après, il y a un petit côté Dogville, je pense, dans le choix du décor. En effet, elles sont 13, hein, enfin, ils sont 12 jurés, plus accusés, plus huissiers. Donc ils sont 14. 14 corps habillés en costumes d'époque, c'est quand même déjà quelque chose. Donc en effet, le décor est assez épuré parce que sinon ça charge trop l'imaginaire. Et puis, ouais, il y a un usage du cinéma. Enfin voilà, il y a des petits subterfuges qui sont très technologiques, qui sont vraiment d'aujourd'hui, parce que elle fait le lien aussi entre les époques avec cette histoire de comète qui passe tous les 75 ans, comme quelque chose qui pourrait se répéter. Hein. Il y a des choses dans le texte qui sont dites. Par la sage-femme qui est la jurée number one, qui essaye de sauver l'accusé, qui dit à un moment, et penser à toutes ces femmes qui sont dans cette pièce quand la comète reviendra, et ce qu'elles vont penser de nous, parce qu'on nous a donné du pouvoir, et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, il y a tout dans la pièce, il y a vraiment cette chose-là qui est vraiment tout le temps présente. De quelque chose qui est écrit aujourd'hui, qui raconte une histoire qui s'est passée avant, mais qui pourrait se jouer en jogging, quoi. Enfin, qui pourrait se jouer aussi avec des costumes contemporains. On pourrait le faire. Franchement, on pourrait le faire dans les années 60, on pourrait le faire dans une autre époque. Mais voilà, non, là, on est très empreint de cette époque-là, donc ça permet de s'y plonger, mais de pas fermer non plus l'imaginaire du spectateur.
Et justement, en fait, quand tu évoques cette pièce de théâtre, on imagine quand même un univers assez sombre, une tension assez pesante qui est due au huis clos, au thème du meurtre, du procès, etc. Mais apparemment, il y a quand même pas mal d'humour qui est présent tout au long de cette pièce de théâtre.
Oui, bah après, c'est très anglais. Donc, en effet, on rentre dans l'histoire qui est assez sombre. Mais forcément, quand on met ces... bon, il y a des petites scènes avant le huis clos, hein, mais quand on met ces femmes ensemble, ces femmes qui donc sont des mères de famille, entre celles qui ne comprennent pas ce qu'elles font là, celles qui ne veulent pas être là, celles qui veulent être là, celles qui ont autre chose à faire... en fait, on met quand même des femmes ensemble dans une pièce qui commencent à parler, et puis assez vite, on tourne un peu autour du pot, on n'y va pas directement, donc du coup, ça permet de parler de plein de choses. Donc oui, il y a vraiment toute une partie de la pièce où on rit beaucoup parce que le texte est plein d'humour. Il y a quand même beaucoup de distance, hein, toujours dans le théâtre anglais. On ne va jamais raconter quelque chose de trash comme ça, de dur, sans mettre de la distance. Donc en effet, on peut rire beaucoup des situations, de ce qui est raconté. Voilà, il y a beaucoup d'humour dans cette pièce. C'est vraiment un voyage avec plein de codes de théâtre qui permettent de raconter cette histoire-là avec un peu de légèreté quand on peut. Et puis aussi, il y a beaucoup d'espaces différents. Enfin, voilà. La pièce, elle dure 2h45, il y a un entracte. Donc il y a deux parties qui ne sont pas écrites pareilles. Donc c'est quand même, les tableaux sont quand même assez différents. On a vraiment presque des codes de théâtre comme ça, qui, à chaque tableau, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Qui nous font voyager aussi dans plusieurs cultures de théâtre, je pense.
Et tu parles de l'humour anglo-saxon. Donc, je rappelle que cette pièce de théâtre, elle est écrite par Lucy Kirkwood, donc en 2019. Donc, c'est une jeune dramaturge britannique. Et j'ai cru comprendre que toi, tu travaillais beaucoup à partir d'auteurs et d'autrices donc contemporains qui sont anglo-saxons. Et pourquoi ce choix-là de s'axer vraiment sur des auteurs contemporains anglo-saxons ?
Ben, je sais pas, je m'y retrouve. Alors forcément, je suis comme tout le monde nourrie aux séries depuis un certain nombre d'années. Donc je pense que, en fait, je trouve que dans le théâtre anglais, il y a la forme au niveau de l'écriture qui est quand même très rigoureuse, très contraignante. C'est très bien écrit, c'est très technique, c'est un peu comme de la musique. La partition, en tout cas, est vraiment très théâtralement très forte. En même temps, il y a toujours du fond. Ça parle toujours de choses aussi de notre société contemporaine, du monde dans lequel on vit. C'est des pièces qui racontent des choses dans lesquelles on se retrouve, où on peut se poser des questions. Chacun peut y trouver un questionnement. En même temps, il y a de l'humour, ce qui n'est pas si courant. Et en effet, c'est aussi des grands scénaristes, donc on raconte une histoire. Et pour moi, c'est vraiment... c'est toutes les composantes de ce que j'aime, raconter une histoire en posant des questions avec une certaine rigueur et en même temps que ce soit très accessible et qu'on passe par plein d'émotions, on rit, on pleure. Je trouve que c'est un théâtre très complet, en fait, qui, moi, me correspond très bien.
Et je voulais savoir, est-ce que tu es la première à adapter ce texte sur scène, qui est... Donc, c'est un texte très récent, au final.
Ce texte, il a été créé à Londres, au Théâtre National, juste avant le Covid, donc en fin 19, début 2020. On l'a fait traduire en France, donc je suis la première à le monter en France, à le créer en France, en tout cas.
Et alors, tu nous parlais justement tout à l'heure des auteurs et des autrices anglo-saxons et de leur marque de fabrique. Et je voulais savoir ce que c'était ta marque de fabrique à toi et ce que tu apportes au niveau de la mise en scène par rapport à ce texte. Qu'est-ce que tu as voulu précisément donner sur scène par rapport à ta lecture à toi du texte de Lucy Kirkwood ?
Moi, je pense que ma marque de fabrique, c'est que je suis très, très respectueuse, en fait, des auteurs et des autrices. Et du coup, je m'attelle à ne pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, ce qui n'est pas toujours facile. J'essaie de ne pas passer moi devant. Donc, je n'ai pas voulu lui faire dire quelque chose. J'ai voulu le faire entendre et trouver l'écrin qui, en tout cas, avec mes collaborateurs, nous semblait le plus juste pour qu'on puisse recevoir ce texte-là, pour qu'il soit le plus mis en valeur, que les acteurs, les actrices soient le plus juste possible. Je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus, sur la direction d'acteurs. Donc voilà, c'est assez subtil, ça va assez loin dans le jeu, je dirais. C'est des très très bons acteurs, des très bonnes actrices. Et j'ai juste voulu, voilà, en tout cas, raconter cette histoire en étant au plus proche, je pense, de ce que l'auteur a envie de nous raconter ou sur les questions qu'il a envie qu'on se pose. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire.
Merci Chloé de nous avoir parlé du texte et de la pièce de théâtre du Firmament. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir sur scène. Donc, pour rappel, le Firmament, c'est un texte de Lucy Kirkwood, mis en scène par Chloé Dabert. Et donc, cette pièce de théâtre, elle sera sur la scène de la Comédie de Valence le mercredi 1er mars à 19h30 et le jeudi 2 mars à 19h30. J'ai vérifié, il reste des places. Donc, plus d'infos sur le site de la Comédie. Merci, merci Chloé.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée. Alors Camille, t'as des plans pour samedi soir ?
Non, mais j'ai hâte d'avoir des idées.
Si t'as envie de te laisser enivrer par de la musique classique, je te recommande un concert symphonique, Camille Saint-Saëns et ses contemporains, organisé par Drôme en cadence. C'est ce samedi 25 à 18h au Théâtre des Cordeliers à Romans-sur-Isère.
Et alors moi, je vous propose ce soir d'aller au Cause Toujours, Storytelling, nos enfants et le handicap. Alors non, c'est pas ce soir, mais c'est en ce moment, donc jusqu'à 13h, donc il reste 30 minutes pour y aller. Sinon, Café Dessin de 19h30 à 20h30 en autonomie.
Et toujours encore samedi 25, si vous n'avez pas envie d'aller au concert symphonique, vous pouvez enfiler votre masque et rejoindre le bal masqué en famille pour une soirée festive qui est adaptée aux petits. À partir de 19h au Centre culturel Fonlosier à Valence.
Et alors ce soir, on prend la direction de Romans. Ce soir, c'est Jeudi du Fou au bar à jeu Le Fou de la Dame. Donc c'est une soirée échecs, tarot, coinches et jeux de go. Et c'est à partir de 20h.
Rebonjour Christelle. Donc tu es directrice de la ressourcerie de Tremplin.
Oui.
Donc une ressourcerie, c'est un lieu de collecte, de réemploi et de revente d'objets d'occasion. Ça permet de limiter la consommation et le gaspillage des ressources, ainsi que la production de déchets. Ça s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire. Et les ressourceries n'ont pas seulement un but écologique, elles ont aussi souvent un but social, puisque bien souvent elles favorisent aussi le réemploi et l'insertion sociale des personnes. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à l'origine du projet de la ressourcerie du Tremplin ?
Alors, le groupe Tremplin, c'est un groupe qui existe maintenant depuis 35 ans. À l'origine, c'est notre directeur général qui, avec son frère, avait monté une association d'aide aux chômeurs, puisqu'à l'époque, on était dans une situation de crise sociale. Et petit à petit, la première structure du groupe Tremplin qui est née, c'est une association intermédiaire de services à la personne, bricolage, ménage, etc., pour des courtes missions chez des particuliers en collectivité. Et puis petit à petit, le groupe s'est développé et nous, en 2014, nous avons créé la première ressourcerie sur le plateau Ardéchois, à la demande des élus du territoire de la CAPCA, qui souhaitaient effectivement renforcer l'emploi des femmes sur le territoire, puisque c'est un territoire qui est assez éloigné de la vallée, qui souffre d'un gros problème de mobilité, il n'y a pas de transport en commun. Et donc, on s'est rapprochés de nous. pour favoriser l'emploi des femmes. Donc nous avons ouvert notre première ressourcerie sur Vernoux et c'était plutôt une réussite. Donc nous avons essaimé sur le territoire. Alors nous, effectivement, notre vocation, c'est l'inclusion. Donc pour travailler dans nos structures, il faut... nos structures sont destinées à un public en situation de précarité sociale, de difficultés sociales. Donc il faut répondre à certains critères. Il faut être éligible à l'insertion. Et à partir de ce moment-là, lorsque le candidat est éligible aux critères de l'insertion, eh bien, il est accompagné tout au long de son parcours chez nous par une conseillère en insertion professionnelle qui va tenter avec la personne de lever les freins à l'emploi. Donc les freins chez nous, ce sont essentiellement des freins, des problématiques sociales, problématiques de logement, problématiques de santé. Et une fois ces freins levés, là, la conseillère en insertion professionnelle travaille avec le salarié un projet professionnel. Donc nous validons les projets professionnels par des immersions en entreprise, c'est-à-dire que le salarié a la capacité pendant une semaine ou 15 jours d'être inséré dans une entreprise pour découvrir vraiment le métier qu'il souhaite exercer. Et une fois ce projet validé, eh bien, nous mettons en place tout le parcours de formation afin que la personne puisse retourner à l'emploi à l'issue de son parcours chez nous qui ne peut excéder 2 années.
D'accord, et donc ça, c'est en parallèle des missions qui sont proposées dans le service à la personne, les travaux agricoles. Là, ce sont d'autres personnes qui peuvent exercer ces missions, c'est ça?
Alors là, ce sont d'autres structures d'insertion. Ça ne rentre pas dans le cadre de la ressourcerie, mais effectivement, le groupe Tremplin est composé de 7 structures, toutes des structures d'insertion par l'activité économique.
Oui, D'accord. Et donc la ressourcerie, c'est un tremplin, donc du coup c'est temporaire pour ces personnes, n'est-ce pas?
Oui, nous on accueille les salariés en contrat à durée déterminée d'insertion. Donc lorsqu'ils répondent aux critères d'éligibilité à l'insertion, un pass d'insertion à l'activité économique leur est délivré pour une durée de 2 ans maximum. Donc nous avons vraiment 2 ans pour travailler leur retour à l'emploi. Ça peut être court.
Concrètement, si quelqu'un veut vous contacter, comment est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il doit venir directement vous rencontrer? Est-ce qu'il doit envoyer sa candidature en ligne?
Alors non, depuis un peu plus d'un an, il faut s'inscrire sur une plateforme qui est la plateforme de l'inclusion. Et souvent, les salariés qui nous sont prescrits sur cette plateforme le sont par leur conseiller à l'emploi, Pôle emploi, leur référent RSA ou les travailleurs sociaux. Mais ils peuvent aussi s'inscrire d'eux-mêmes sur la plateforme. Et à ce moment-là, nous, quand on reçoit les candidatures, on vérifie les critères d'éligibilité.
D'accord, donc ça c'est une des actions de la ressourcerie. L'autre action c'est de proposer donc des objets, de les rénover ou de les vendre, des objets d'occasion à des consommateurs, des usagers. Et donc là c'est possible de les trouver sur 3 sites.
Alors 4.
4.
Oui, nous en avons 1 en Drôme sur l'Aveyron et 3 en Ardèche, donc Vernoux, Tournon et Saint-Péray, avec une matériothèque aussi qui a ouvert en juin dernier sur Vernoux et qui permet la réutilisation, enfin le réemploi de matériaux de construction.
Et donc concrètement, les personnes, donc, elles peuvent venir sur place pour venir acheter des objets ou pour apporter leurs objets qui sont usés. Quels sont les horaires d'ouverture?
Alors les horaires d'ouverture sont variables d'une ressourcerie à l'autre, mais en gros nous travaillons du mercredi au samedi inclus. Et les personnes peuvent effectivement venir en apport volontaire dans les ressourceries pendant les heures d'ouverture, ou sinon nous pratiquons aussi pour les choses un peu plus volumineuses ou les personnes qui ont des problèmes de mobilité, qui n'ont pas de véhicule, le débarras à domicile et la collecte.
D'accord. Très bien. Je sais pas. Est-ce que Camille, tu as des questions?
Non, écoute, c'était hyper complet et hyper intéressant. Moi, je ne connaissais pas. Donc, honnêtement, c'est une super initiative. Et est-ce qu'il va y avoir d'autres ressourceries? Parce qu'il me semble que toutes les ressourceries, elles sont côté Ardèche.
Alors, on en a une côté de Rome.
Ah oui, côté de Rome.
Après, nous aimerions effectivement essaimer. La difficulté, c'est de trouver du foncier, puisque pour exploiter une ressourcerie, bien, on a beaucoup d'apports. Le temps de trier, de remettre en état, etc., ça nécessite quand même de la place. Et on a des difficultés à trouver du foncier qui soit accessible. Parce que nous, notre devise est aussi de réemployer, de réutiliser et de revendre à des prix qui soient accessibles à tous. Donc effectivement, voilà, la recherche de locaux est quasi permanente, mais c'est compliqué sur le territoire.
D'accord, donc c'est en projet.
Oui, on aimerait, c'est vrai qu'on est passionné aussi par nos activités et on a aussi une vocation à sensibiliser le public à l'environnement, donc on aimerait s'aimer, mais c'est compliqué.
Est-ce que vous organisez des ateliers, des activités particulières au sein de vos ressourceries ?
Alors, au sein des ressourceries, eh bien, étant donné le manque de place, on n'a pas d'atelier. Par contre, nous animons un atelier, un Ripper Café, tous les mardis après-midi chez le Roi Merlin à Valence.
Alors, donc c'est à partir de quelle heure ?
Alors de 14h jusqu'à 18h.
Ah oui, d'accord. Oui. Et donc là, quel est le but de cet atelier ?
Alors, eh bien, écoutez, là, les personnes viennent avec du matériel, de l'électroménager ou du petit matériel électrique en panne pour trouver donc notre collaborateur qui est formé à la réparation et tenter avec lui de réparer leurs objets. Donc c'est pour lutter un petit peu contre l'obsolescence programmée, etc.
D'accord, très bien. Et c'est chez le Roi Merlin.
Oui.
Ok, super.
Ouais, c'est bon à savoir, plutôt que de jeter et de racheter immédiatement, si on peut donner une seconde vie à un grille-pain ou je sais pas,
voilà,
ses cheveux ou que sais-je.
Des cafetières aussi.
Ouais.
Et où est-ce qu'on peut trouver les informations par rapport à ce café ou par rapport à la ressourcerie ? Est-ce que vous avez un site internet ?
Alors oui, nous avons un site internet là que nous sommes en train de retravailler parce qu'il était un petit peu obsolète. Sinon, sur le site de le Roi Merlin aussi.
D'accord, très bien. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose ?
Non, je vous remercie.
Merci beaucoup, Christelle.
Merci à vous.
Merci. Alors, ce soir, à 18h30, il y aura une conférence sur le thème des droits de l'homme à l'épreuve de la demande de sécurité. C'est une conférence qui est organisée par le Centre du patrimoine arménien, mais qui aura lieu au Navire. Et alors, elle sera animée par Justine Lacroix, professeure en sciences politiques, vice-doyenne de la faculté de philosophie et sciences sociales à l'Université libre de Bruxelles. Plus d'infos sur le site du Centre du patrimoine arménien.
Journée portes ouvertes de l'École supérieure d'art et de design LESAD sur le site de Valence, place des Beaux-Arts, vendredi 24 de 14h à 18h et samedi 25 février de 9h à 13h.
Et demain, au Navire, à 19h30, il y aura un ciné-débat autour du film La Très Grande Évasion, réalisé par Yannick Cargoat. Donc la séance sera suivie d'une conférence sur le thème de l'évasion fiscale. Elle sera donnée par Raphaël Prado, professeur agrégé de sciences économiques et sociales à la faculté d'Aix-en-Provence. Et vous trouverez plus d'infos sur le site du Navire.
Au Luxe, scène nationale de Valence, un spectacle de danse qui se nomme La chair de l'objet. Ce sont des récits chorégraphiques inspirés d'entretiens entre le chorégraphe David Drouard et des adolescents sur la question de l'identité et de l'altérité. C'est vendredi 24 à 14h15 et vendredi 24 à 20h. Ainsi se termine cette locale du 23 février.
Restez à l'écoute de Radio BLV.
13h, musique de sac et de cordes, Clémence Cognier.
À 17h, rediff de Avec ou sans sucre.
À 18h, rediff de cette locale.
À 19h, Tritical Airlines.
Et à 20h15, La route du blues numéro 66.
Et tout au long de la journée, notre fil musical Maison. Merci à Mélodie et à Fatih à la technique.
Si vous voulez partager vos infos, écrivez-nous à agenda@radioblv.com.
Merci pour votre écoute et bonne journée.
Bonne journée. Ainsi se termine cette locale du 23 février.
Restez à l'écoute de Radio BLV.